Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Ça y est, la grande semaine des chrétiens a commencé. En ce début de semaine sainte, on peut avoir la tête ailleurs, l'on peut douter ou être blotti comme à l'intérieur de soi-même tant la semaine s'annonce rude. Quoi qu'il en soit, lors de cette semaine, indépendamment de nous, l'amour va s'exposer. Un homme va ouvrir la voie de l'impossible amour, un amour plus fort que la haine, que le rejet, que l'humiliation, un amour fort comme la mort, que dis-je. Un amour plus fort que la mort. Pour nous aider à entrer dans cette semaine si spéciale, nous sommes allés chercher loin, un vrai guide de haute montagne. Combat spirituel, et si on parlait vrai, point d'interrogation, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église en ce lundi matin, lundi de Semaine Sainte, avec nous Pierre Descouvemont. Vous êtes prêtre, vous êtes un prédicateur de renom, auteur de multiples ouvrages, et le dernier publié s'appelle « Gagner le combat spirituel », c'est paru aux éditions de l'Emmanuel. Bonjour.
Bonjour.
On va juste prendre le temps de vous présenter un tout petit peu, Pierre Descouvemont. Je l'ai dit, vous êtes prêtre, vous êtes prédicateur, vous êtes docteur en théologie, vous avez publié de très nombreux ouvrages. Hein, j'ai compté à la fin de votre livre, j'en ai compté 35, encore récemment, hein, 3 en 2019, et puis celui-là, donc, qui est une nouvelle édition. Je le disais, et j'espère ne pas vous froisser, vous avez 93 ans. À 93 ans, vous continuez
en bonne santé.
Et en bonne santé.
Un cadeau du ciel.
Un cadeau du ciel. Alors, ma première question, qui peut paraître un peu triviale, Pierre Descouvemont, quand on a 93 ans, on a encore besoin de se pencher et de réfléchir au combat spirituel ?
Ben oui, parce qu'il est permanent. Et on le connaît davantage dans sa vieillesse, c'est évident. Et le moment, et justement, je m'en vais vers le combat essentiel qui sera le combat ultime de la mort.
Alors justement, c'est par ça que j'aimerais commencer, si ça vous va.
Ah bon ?
Non pas par votre mort, hein, bien sûr, mais à la fin de votre ouvrage, justement, vous avez un mot comme ça, le combat ultime. Ce matin, en teasing de l'émission, la journaliste me disait, mais dans le fond, qu'est-ce que c'est que le combat spirituel ? Et je lui reprenais l'image que vous prenez à la fin de votre ouvrage, qui est donc l'image de la fin de la vie et de ceux qui manquent de mourir et qui voient leur vie défiler. Est-ce que quelque part c'est une bonne image du combat spirituel, Pierre Descouvemont ?
C'est-à-dire que à la fin de la vie, on va, comme dirait Victor Hugo, qui n'a pas dit que des bêtises, à la fin de la vie, le masque tombera du visage de l'homme et le voile du visage de Dieu. Parce qu'à la fin de sa vie, on voit toutes les bêtises qu'on a faites, voyez ? On voit aussi toutes les gaffes qu'on a faites, celles qu'on connaît et puis celles qu'on ne connaît pas. Et donc, le désespoir est pratiquement est presque normal à ce moment-là. Et donc, il faut se dire que le Seigneur, il m'aime quand même. Ce sera le moment à la fois de sa misère et de la miséricorde.
Est-ce que vous pouvez prendre un exemple ? Vous en donnez quelques-uns à la fin de votre ouvrage, des connus, Saint François Xavier, le fondateur...
Oui, c'est-à-dire, c'est ces fameux... ceux qui... J'étais prof de philo. J'ai eu en classe un élève assez sportif qui n'hésite pas à aller loin dans la mer et il a failli se noyer. Et il a raconté à ses camarades qu'en une seconde, il a revu toute sa vie avec des détails qu'il ne connaissait absolument pas. C'est classique, on appelle ça l'hypermnésie des noyés. C'est arrivé aussi à Saint François Xavier qui a failli se noyer en allant au Japon. Et il a raconté à ses frères jésuites qu'il a revu aussi toute sa vie, et que c'est terrible. Voilà. Donc à ce moment-là, on sait que ce sera le moment le plus terrible de la vie. Voilà. Parce qu'il faudra accepter de voir toute sa misère. Alors ça donne une idée, ils ne sont pas morts, ça donne une idée. Ça donne une idée de ce que, Patrick Tellier, qui est d'ailleurs originaire de Valenciennes, comme moi, d'un homme du Nord, qui a été longtemps... La responsable du bureau médical de Lourdes a fait un livre là-dessus, sur cette expérience bien connue de ceux qui croient leur dernière heure arrivée et qui revoient toute leur vie en une seconde. Mais encore une fois, la mort, ça sera plus terrible, parce que là, on meurt pour de bon, quoi. Voilà.
Alors, cette fois, on va aller au début de l'ouvrage. Alors, désolé pour les auditeurs, hein, la connexion n'est pas excellente. On essaiera de l'améliorer pendant la première pause, mais on est bien content de vous avoir. Vous êtes à l'autre bout de la France, et donc c'était ça ou rien. Au début donc, de cet ouvrage, Gagner le combat spirituel, vous commencez en parlant du diable. C'est aussi la quatrième de couverture. Pourquoi est-ce que vous commencez par cela? C'est même dans votre avant-propos. Vous dites la chose suivante: aujourd'hui nous assistons à un étrange paradoxe, les internautes peuvent facilement accéder à des sites sataniques qui leur expliquent ce qu'ils doivent faire pour conclure un pacte avec le diable, et vous laissez entendre que l'équivalent est plus difficile à trouver. Pourquoi vous commencez par ça, Pierre Descouvement?
Parce que justement, il faut savoir que le diable est derrière tout cela. Celui qui désire le plus nous faire tomber, c'est le diable. Or, vous savez qu'aujourd'hui, cette réalité du diable est contestée par une certaine portion du peuple chrétien. Ça fait partie des hérésies du monde moderne. Donc, faut pas oublier que le dernier mot du Notre Père, c'est « Délivre-nous du mal » avec un M majuscule, du malin. C'est-à-dire très bien, la prière chrétienne commence par Dieu, Pater Noster, et se termine par le diable. Mais il faut le laisser à la dernière place. Donc, il n'est pas toujours en train de se manifester. Non, j'ai eu l'occasion de faire des prières de délivrance. Je ne peux pas faire des exorcismes. C'est réservé aux prêtres exorcistes désignés par l'évêque dans un diocèse. Mais le prêtre peut être amené à faire des prières de délivrance. La seule différence, c'est qu'il n'interpelle pas le diable directement. Et là, on a une expérience quasi expérimentale du diable qui manifeste qu'il ne veut pas partir, hein, et qui mystérieusement est attaqué par l'eau bénite. L'eau bénite, c'est une eau ordinaire sur laquelle le prêtre a donné une toute petite bénédiction. Eh bien, le prêtre reconnaît que c'est de l'eau bénite. Et le signe que Satan est parti dans une prière de délivrance, c'est qu'on peut faire une onction d'eau bénite sur la personne sans qu'elle réagisse. Donc, encore une fois, Satan se sert, c'est ce que je dis dans la première partie de mon livre, se sert des complices, d'un tas de moyens d'attaquer l'homme, mais il faut savoir qui est derrière.
Alors, on va y revenir. Il y a quelque chose aussi qui me semble central dans votre ouvrage, c'est que vous parlez donc du quiétisme. Alors, le quiétisme, à vous entendre, ce serait en fait donc une erreur passée qui viendrait donc du XVIIe siècle, qui serait la suite même de l'enseignement d'un certain Molinos. Vous allez peut-être pouvoir nous expliquer. Mais en tout cas, ça dirait une erreur profonde dans laquelle on serait plongé, y compris nous chrétiens contemporains.
Non, c'est très simple. Alors le quiétisme, effectivement, j'habite ici à Cambrai, à quelques centaines de mètres de l'endroit où était enterré Fénelon, qui a été condamné par le pape. Il s'est d'ailleurs soumis immédiatement pour quiétisme. Les historiens discutent encore de l'opportunité de cette condamnation. Mais le quiétisme, ça consiste, on insiste tellement sur la miséricorde de Dieu, qu'on finit par ne plus penser du tout que l'enfer puisse exister et qu'il faut se battre. Vous voyez, la petite Thérèse, j'ai fait une dizaine de livres sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Bien, le grand Thérèse avait peur, justement, qu'on considère sa doctrine comme du quiétisme. Elle connaissait le mot, elle connaissait la réalité. Vous savez, à force de dire « Seigneur, nous pardonne », il faut arriver du Seigneur les mains vides. Non, c'est du quiétisme, ça. Le Seigneur nous demande d'arriver au ciel les mains pleines de mérite, un mot que beaucoup de chrétiens ne connaissent même plus. Vous voyez, il faut mériter le ciel. Il faut, non pas en accumulant des béats scouts, mais en ayant une belle âme, une robe nuptiale, un cœur plein de charité et non pas plein de malice. Dieu ne peut pas mettre dans son ciel des êtres qui ne seraient pas remplis de charité. C'est-à-dire la raison pour laquelle il y a une infirmerie du ciel qui est le purgatoire. Donc le quiétisme, c'est l'oubli du combat spirituel.
Alors, Ceci étant posé, vous expliquez au début de votre livre, vous prenez le parallèle suivant, semble-t-il, qui est celui des pères du désert, donc ces moines qui vivaient au désert donc au début de l'histoire de l'Église, aux environs du 4e siècle. D'un côté, disait-il, on a le droit et le devoir de se reposer régulièrement, tandis que de l'autre, à propos du combat spirituel, le repos est impossible. Alors introduisez-nous, via les pères du désert, au combat spirituel. Il y aurait donc à l'intérieur de notre vie un combat. Et il faudrait s'y résoudre.
Eh bien, c'est-à-dire que, je vais dire deux choses sur les pères spirituels, sur les pères du désert. Bon, ils se rendent compte ils ont réalisé que leur devoir d'État serait de prier, de passer toute la semaine à prier, de contemplatif, et ils se rendent compte qu'ils n'y arrivent pas. Et que la prière, c'est difficile. C'est à la fois naturel et surnaturel. On est fait pour cela et on n'y arrive pas. Et c'est la raison pour laquelle ils ont la bonne idée de commencer leur office par un verset de psaume qui est désormais le verset par lequel tous les moines et tous les chrétiens commencent en prière. Dieu, viens à mon aide, au secours, SOS. Malheureusement, la plupart des contemplatifs le chantent d'une façon trop paisible. Il faudrait le chanter comme certains moines. Je connais à Haute-Rive, en Suisse, où ils gueulent. Festine, dépêche-toi, Seigneur, on coule. Donc, les moines se rendent compte, premièrement, que la prière, tout en étant leur vocation, eh bien, ça dépasse nos forces. D'ailleurs, c'est la vie chrétienne. Aimer, pardonner, et être humble, l'humilité, la chose essentielle. L'humilité, c'est une grâce. Il faut à la fois la demander et accepter des humiliations pour que l'humilité vienne un peu à peu. C'est pas difficile, c'est impossible. La grande idée chrétienne, c'est que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Donc, il faut sans cesse prier. Sinon, on n'y arrive pas. Vous voyez, c'est le paradoxe de la vie chrétienne. Si le Seigneur nous demande de prier sans cesse, c'est pas réservé aux moines. C'est parce que sans cesse, nous avons besoin de lutter contre le mal, contre le malin et toutes ces manifestations.
Est-ce que
je me fais comprendre?
Oui, ça va, enfin j'espère. Je ne peux pas dire pour les milliers d'auditeurs qui nous écoutent, mais on espère parler bien près du combiné en tout cas. Au risque d'insister et d'enfoncer un peu le clou, mais en même temps vous le faites, vous parlez à un moment de la peur évangélique de l'enfer. Vous citez un petit peu avant les exorcismes aussi, alors vous avez parlé des prières de libération. Pourquoi est-ce que vous allez jusque-là de parler de la peur évangélique de l'enfer et vous recitez Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus que vous aimez tant et sur laquelle vous avez publié tant de livres?
Parce que le père Molinier, qui est un dominicain merveilleux, un grand théologien que j'ai reconnu dans ma vie, le père Molinier a écrit un livre génial avec un titre génial, le courage d'avoir peur. Je me souviens avoir fait lire ce livre à un garçon qui sortait de Polytechnique et qui se préparait au mariage. J'ai dit, mais c'est génial ce livre-là. Alors, c'est pas lui d'ailleurs, c'est le père Brault, son ami, qui avait inventé le titre. Il montre que les saints, ils ont le courage d'avoir peur. Et alors, j'ai eu l'occasion de l'interviewer, ce père Molinier, pour un article paru dans une revue thérésienne. Bon, j'ai dit, vous aimez les mathématiques, père Molinier, ça peut se résumer, votre pensée, en une équation du premier degré. C égale F de D. La confiance est fonction de la défiance. Si vous n'avez pas peur de l'enfer, si vous n'avez pas peur de... Ben vous n'avez pas besoin de votre confiance, elle est minuscule, elle est epsilon. Parce que vous dites, Seigneur, t'es tellement bon que j'ai pas à m'en faire. Il n'y a pas d'enfer, j'ai pas à m'en faire. Si au contraire, comme les saints, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme Alphonse de Ligorie, Saint Ignace et Quignon de Montfort, si vous savez que vous êtes en danger d'enfer, votre confiance va être beaucoup plus grande. Seigneur, j'ai confiance en toi. Et la confiance en Dieu, elle est fonction de notre défiance de nous-mêmes. Aujourd'hui, on est tellement sympa, on est tellement authentique, il y a tellement de circonstances atténuantes, Dieu est tellement miséricordieux qu'il n'y a pas à s'en faire. Ce sont les scrupuleux qui ont peur de l'enfer. voyez ? Il y a une bonne peur de l'enfer. Alors, il faut que mes auditeurs, que les auditeurs le comprennent bien, cette grande peur de l'enfer, elle est en quelque sorte réservée aux saints, quoi. Hein. Parce qu'il peut y avoir dans mes auditeurs des gens qui ont des scrupules exagérés, ça peut arriver, qui ne croient pas suffisamment à la bonté de Dieu et aux circonstances atténuantes de leur vie. Donc, c'est toujours... Bon, il y a tout un art. C'est dangereux quand on parle, parce qu'on ne peut pas tout dire en même temps.
On va faire une première pause et puis on va vous retrouver. On va se plonger dans le combat spirituel. Vous nous donnez plein d'outils. On n'aura pas le temps de parler de tout. On peut dire la manière dont est construit cet ouvrage. Il y a la tactique du diable. Vous reprenez là le titre d'un célèbre auteur, C.S. Lewis. Et ensuite, la riposte des chrétiens. Les missiles, le contre-espionnage, l'entraînement, les offensives, l'équipement, le moral, le char blindé. Bref, vous dites dans votre introduction qu'il faut que les chrétiens passent tous dans une école de guerre. On va voir donc ce que vous nous conseiller.
Présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Combat spirituel et si on parlait vrai, point d'interrogation, c'est pour rappel le titre de l'émission Vivante Église de ce matin avec nous Pierre Descouvemont qui est prêtre, prédicateur de renom et auteur donc d'un ouvrage, Gagner le combat spirituel, nouvelle édition augmentée parue aux éditions de l'Emmanuel. Pierre Descouvemont, dans votre ouvrage, vous citez de multiples saints et auteurs, en l'occurrence c'est Saint José Maria Escrivá de Balaguer. Vous donnez la citation suivante, avant qu'on se plonge peut-être dans quelques-unes des tactiques que vous proposez, ou pardon, des modalités de combat que vous proposez pour répondre aux tactiques du diable. La paix est quelque chose d'intimement associé à la guerre. La paix est la conséquence de la victoire. La paix exige de moi une lutte continuelle. Sans lutte, je ne trouverai pas la paix. Est-ce que c'est là la première condition, on va dire, du combat spirituel, Pierre Descouvemont ? Alors, on vous a perdu. Ce sont des choses qui arrivent. On va donc vous rappeler. C'est l'occasion donc peut-être de donner, allez, on va faire les choses à l'envers, une fois n'est pas coutume, de parler un petit peu plus donc de Pierre Descouvement. Pierre Descouvement, donc, qui est l'auteur de multiples ouvrages, entre autres donc, sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'il cite largement dans ce livre. Preuve que la petite Thérèse, comme on dit, celle qui est l'auteur de La Petite Voix, qui a été déclarée docteur de l'Église, est un maître en combat spirituel. Quelques-uns de ses ouvrages, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et son prochain, ou Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de l'Église, guide de lecture. Ça, c'était aux éditions du Cerf en 1997. Alors, on vous a retrouvé. Entre-temps, j'ai parlé d'une autre sainte, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Pierre Descouvement, vous dites qu'il faut entrer dans une école de guerre, et quand on entend Saint Rosemarie Escrivá de Balaguer, vous dites que la paix est le fruit forcément d'un combat.
C'est ça, oui. On est en guerre. Alors, on a des armes. Saint Paul emploie parle de la paix, la panoplie. Et c'est pour ça que je me suis amusé dans mon livre à parler d'une panoplie moderne. Non, il y a... Le bouclier, c'est devenu le char blindé. Bon, la Sainte Vierge, le manteau de la Sainte Vierge, la couverture aérienne. Bon, j'ai changé les images, quoi. Hein? Mais c'est toujours l'idée que il faut. On a des alliés. Enfin, on part pas tout seul au combat, quoi. On est plus fort parce qu'on a le Seigneur avec nous.
Mais est-ce que vous diriez qu'en fait le préambule à tout combat spirituel, c'est d'un jour en fait d'accepter de se résoudre au combat?
Ben oui, il faut. Vous savez, hier, je commence mon livre comme ça, d'ailleurs. Je raconte l'histoire d'une grande défaite de l'armée italienne, hein, parce que le généralissime des armées italiennes ne savait pas qu'il entrait dans un défilé où se trouvaient les ennemis, les Autrichiens. Non, il n'y a rien de pire que de partir au combat en mésestimant la force de l'adversaire. Donc, savoir qu'il y a un adversaire et qu'il faut se battre contre lui, c'est une... Imaginez une équipe de sport, une équipe de football qui partirait en pensant au jeu, qui ne croirait pas à la force de l'adversaire, quoi. Hein? Il faut se battre. Non, il faut pas... Mais il faut pas non plus... Attention, c'est toujours la même chose. La grande idée de mes livres, c'est être. Hein? Il y a le combat et le repos. Vous voyez, il faut de la prière. Les spirituels ont dit ça depuis longtemps. On va à la prière tantôt comme à un repos, tantôt comme à un combat. Non, il y a des alternances dans la vie.
Alors,
on n'est pas toujours. Bon, voilà.
Dans la deuxième partie de votre ouvrage, La riposte du chrétien, il y a de multiples portes d'entrée. J'aimerais qu'on évoque pour alors à la fois on va dire la difficulté et la manière de les combattre. Vous dites qu'il y a des complices en fait donc au diable.
C'est donc le concours
de nos passions. Alors vous citez entre autres Évargue le Pontique. Disant, si je ne me trompe pas, qu'à la fois il y a en nous comme la voix de l'ange et la voix des démons, et puis vous présentez en fait ces passions en trois grandes familles, l'ensemble de nos désirs, l'ardeur à combattre et l'esprit. Expliquez-nous un peu ces trois grandes familles de passions.
Oui, bon, vous savez, les divisions, il faut se méfier parce que chacun, c'est, il ne faut pas imposer la terminologie de l'un des autres, bon. Mais par exemple, une chose toute simple, c'est que on se rend bien compte en nous qu'il y a une tentation de jalousie qui est fondamentale, quoi. Hein? La Bible est remplie de luttes fratricides, Cain et Abel, et les apôtres eux-mêmes qui se disputent entre eux pour savoir quel est le meilleur. Donc, bon, les frères et sœurs souvent se divisent, bon, notamment quand il y a un héritage à se partager. Non, la jalousie est quelque chose... Alors, j'insiste beaucoup, je pourrais faire plusieurs émissions sur la jalousie, vous voyez. Parce que tantôt, on jalouse les autres parce qu'ils ont des avantages matériels, humains, que nous n'avons pas. Ou bien, on les jalouse parce qu'ils sont trop bien. On jalouse celui qui est trop pieux. Donc, je peux raconter... Hein, vous voyez, alors, il faut avoir des raisons de ne pas jalouser, notamment... Quand vous êtes jaloux de quelqu'un qui vous paraît meilleur que vous, vous vous rappelez une grande vérité chrétienne, la communion des saints. Au lieu de jalouser ce gars formidable, vous J'offrais ses mérites à Dieu et ils vous appartiennent. Ça, c'est un argument spécifiquement chrétien. Vous voyez, je parle à la fois de la tentation et de l'arme qui permet.
Pierre Descouvement, quand vous dites donc quand même ensemble des désirs, ardeur et esprit, on entend derrière en fait qu'il y a au départ quelque chose de bon qui d'une certaine manière est dévoyé. Alors même si c'est artificiel, est-ce que vous pouvez présenter ces trois familles?
Prenons un exemple simple. Hein, l'ambition. L'ambition, c'est quelque chose de merveilleux. Voyez, c'est pas de l'orgueil. Voyez, c'est un petit peu subtil. C'est ça. Dans le combat spirituel, il faut repérer. C'est le discernement. Il faut pas. C'est pourquoi d'ailleurs l'éducation est difficile. C'est très bien de donner aux jeunes l'ambition de réussir leur vie et de dire tu peux faire mieux. Mais il ne faut pas non plus qu'ils aient des désirs qui ne correspondent pas à leur capacité. Ça donne des illusions. Est-ce que je me fais comprendre?
Hein? Oui, j'espère, oui.
Et donc, je peux prendre les vertus sont complémentaires, voilà. Quand j'étais prof de philo, je me battais alors contre l'idée d'Aristote suivant laquelle la vertu serait un juste milieu. Par exemple, il faut pas être trop économe, ça donne l'avarice. Non, on n'a jamais trop une vertu, mais il faut avoir des vertus complémentaires. On n'est jamais trop doux, mais être doux et fort. Et c'est bien connu que des parents qui ont une éducation trop sévère, ils risquent de ne plus être assez sévères avec leurs enfants parce qu'ils ont pâti d'une excessive sévérité. Alors, donc dans le combat spirituel, il faut savoir développer des vertus complémentaires.
Ce que vous laissez entendre dans votre livre aussi, c'est qu'il faut être attentif au fait qu'on est souvent attaqué sur notre point faible. Vous citez cette fois Napoléon, « L'art de la guerre consiste à choisir avec soin son point d'attaque et à y concentrer toutes ses forces. »
Oui, bon, il y a longtemps que j'avais pas cité ce totem de Napoléon. Non, c'est-à-dire que c'est très important ce que vous venez de dire. C'est un de mes dadas dans la prédication. On est tenté sur son point fort. J'en ai discuté avec plus d'un et ils sont d'accord. Par exemple, je sens par exemple que moi j'ai un certain attrait pour la joie chrétienne. Non, j'ai fait beaucoup de choses, beaucoup de prédications là-dessus. Eh bien, je serais tenté d'être triste, voyez. Satan m'attaque sur mon point fort. Donc mon combat, c'est d'être joyeux. Alors que c'est mon charisme. Une personne sera très sensible à la générosité, à la délicatesse, eh bien, son combat, ce sera d'être encore plus délicate. C'est très curieux, ça. Il faut l'expérimenter. On est tenté sur son point fort. On est tenté aussi sur son point faible, évidemment. Mais là, on le voit tout de suite. Quelqu'un qui est gourmand, ou bien qui a une addiction, là il voit tout de suite qu'il doit se battre aussi sur son point faible, c'est évident. Hein? Mais pas uniquement. Là aussi, vous voyez, quelle est la résolution que je dois prendre? À la fois sur mon point faible et sur mon point fort.
Pierre Descouvement, vous parlez aussi dans votre terminologie un petit peu guerrière d'une arme secrète qui serait l'arme secrète et insidieuse du découragement. Pourquoi est-ce que vous insistez beaucoup sur cette arme et que vous la dites même secrète?
Parce que justement, le découragement, figurez-vous, c'est une forme d'orgueil. Voyez, parce qu'on voudrait. Combien de gens, par exemple, ne se confessent plus parce qu'ils disent je dis toujours la même chose, je dois toujours reprendre la même résolution. Eh bien, c'est le combat spirituel, c'est de reprendre sans cesse la même résolution. On prend une résolution sur quelque chose qui est difficile. Par exemple, je n'ai jamais pris la résolution de ne plus fumer. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais fumé. Ce serait trop facile. On prend une résolution sur un point faible, mais aussi sur un point fort. Vous voyez? Parce que justement, il y a à un certain niveau, on n'a plus tellement de points faibles, on s'est débarrassé d'un certain nombre de mauvaises habitudes. Donc, ce combat-là n'existe plus, tant mieux. Il est presque terminé. Mais il faut justement, pour ne pas tomber dans le pharisaïsme et la médiocrité, il faut trouver le point fort que je dois continuer à creuser, à mieux faire. D'accord ? voyez. Le combat spirituel, c'est pas simpliste, quoi. La vie n'est pas simpliste.
Alors on entend d'ailleurs, vous utilisez cette expression aussi, hein. Vous dites qu'il y a contre nous comme une stratégie multiforme, on peut se sentir un petit peu démuni face à tout ça. On entend en plus que c'est un art de la finesse. Dans cette expression que vous utilisez là, issue donc de traités pratiques d'Évrard le Pontique, les pensées qui nous sont inspirées par les anges et les pensées qui nous sont inspirées par les démons peuvent avoir l'impression qu'on est pris entre les deux. Et puis vous ajoutez un peu plus loin, le propre du bon esprit et de toucher l'âme doucement, légèrement, suavement, à la manière d'une goutte d'eau qui pénètre une éponge. Comment est-ce qu'on peut apprendre à lire comme ça ces inspirations qui viennent de l'un ou de l'autre?
Attention, ce développement, c'est Saint Ignace qui repère ça dans le discernement des esprits. Celui qui va de péché mortel en péché mortel, dit Saint Ignace, bien, il se pose au... Il drague, il boit, sans problème, vous voyez, sa conscience est complètement endormie. Donc le bon ange va se manifester en l'inquiétant. Il va de temps en temps avoir quelques scrupules, tant mieux. Vous voyez? Mais au contraire, celui qui est généreux, qui est vraiment généreux, qui se confesse régulièrement, qui a un père spirituel, enfin, qui fait un effort pour s'améliorer, le danger de Satan va l'inquiéter, lui donner des scrupules pour l'empêcher d'aimer Dieu semblablement, vous voyez. Donc la tactique du diable ou la tactique du bon ange est différente suivant qu'on a affaire à quelqu'un qui est endormi et qui ne fait plus de progrès, ou s'il s'agit de quelqu'un qui justement est en progrès mais qui pourrait être retardé par des scrupules inutiles.
Alors, ce qu'on entend dans cette expression, quand même, le bon esprit donc touche l'âme bon doucement,
esprit, c'est l'ange, enfin,
légèrement, suavement, à la manière d'une goutte d'eau, c'est qu'en fait, c'est souvent très ténu, non? C'est ça, là, ce qui vient de Dieu.
Non, mais c'est exactement. Voilà. Vous savez, la grande arme, c'est l'oraison. Je crois que le gros problème aujourd'hui, pour le dire, enfin, pour être tout à fait d'actualité, c'est que les gens ne savent plus prier tout seuls, vous voyez. Voilà, c'est typique encore de la difficulté de tenir l'équilibre. Depuis une cinquantaine d'années, on répète sans cesse aux chrétiens, chrétiens isolés, chrétiens en danger. Il faut prier en église. C'est pour les partages d'évangiles où chacun dit ce qu'il pense. C'est bien, tout à fait d'accord. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, mais il ne faut quand même pas oublier la prière personnelle. Qu'est-ce que nous rappelle l'Église au début du carême? L'Évangile. Quand tu pries, confine-toi dans ta chambre et prie en le secret. Moi, je suis un petit peu désolé de voir que dans cette période de confinement, les églises sont pratiquement vides. En dehors de... Les gens, ils ont besoin d'aller à la messe pour prier. Ils ne savent plus prier tout seuls. Ils savent plus prier tout seuls. Il faut qu'ils voient sur une toile de télévision ou de tablette, il faut quelqu'un qui prie. Ils ne savent plus prier tout seul.
Mais Pierre Descouvement, pourquoi est-ce que c'est si fondamental de s'habituer à savoir prier seul?
Ben parce que c'est Jésus qui le dit. C'est Jésus qui le dit. La prière est quelque chose de personnel. Les couples même découvrent que faire la prière conjugale, c'est très bien, mais ça ne doit pas supprimer l'oraison. Et Marthe Robin disait très justement que faire oraison, c'est plus important que communier.
C'est-à-dire...
Aujourd'hui, les gens réclament la messe, réclament les... c'est très bien, je suis tout à fait pour la messe, bien sûr, je la célèbre d'ailleurs tous les jours, mais ça ne doit pas remplacer l'oraison. C'est quand même fondamental.
L'oraison étant la prière personnelle. Alors juste, Pierre Descoux...
Comment ?
L'oraison, je précise...
La prière personnelle. Bon, on peut prier, évidemment, tout en participant à une chorale. Mais l'oraison est quelque chose... Je pourrais vous raconter un tas fondamental, quoi.
On a compris. Hein? Alors, peut-être raconter une histoire dans ces cas-là. Je précisais juste que l'oraison, c'est donc la prière personnelle, hein, le fait de prier seul. Parce que,
oui, c'est ça.
Attention au jargon. Alors, une histoire.
C'est simplement par rapport à la communion.
Une histoire, Pierre Descouvement.
Saint-Louis, roi de France. Saint-Louis-Héron de France. Il assistait à deux messes basses, comme on dit maintenant, par jour. Il entend. Bon. Et il ne communiait que sept fois par an. Au XIIIe siècle, un grand siècle eucharistique. C'est le siècle où on a fondé la fête Dieu, sous l'influence d'une religieuse belge, de Liège. Eh bien, les franciscains, les dominicains, qui venaient d'être fondés par deux saints, ils ne communiaient que sept fois par an. Et ce n'était pas du jansénisme. À l'époque, on estimait que... Mais on savait prier. Vous voyez, on allait à la messe, on priait. Le prêtre, c'était pas comme maintenant, mais les gens, ils savaient prier tout seuls, en silence, en fermant les yeux. Et prenons un exemple simple. Combien de gens, maintenant, ne ferment plus les yeux une seconde pendant la messe? On leur a dit de participer. Alors, ils regardent, ils écoutent, mais ils savent plus fermer les yeux. Enfin, j'exagère un peu, mais il faut qu'ils retrouvent le goût de la prière, de l'oraison, c'est-à-dire de la causette qu'on fait avec le bon Dieu dans le fond de son cœur.
Pierre Descouvement, vous parlez donc de Jésus, évidemment, au cœur du combat spirituel. Alors vous me direz, la question est fort large, mais peut-être en ce début de Semaine Sainte, en quoi Jésus est un modèle, justement, de prière personnelle
affaire, c'est justement ce que j'ai ajouté. Vous parlez de mon livre, c'est une réédition. Et j'avais omis de mettre... Ça se trouve maintenant dans l'appendice, dans la nouvelle édition, le combat de Jésus. Jésus lui-même a combattu toute sa vie pour résister à Satan. On nous rappelle ça le premier dimanche de Carême. Et quelle était la tentation de Jésus? C'était évidemment pas l'orgueil ou la gourmandise. Non, c'était, Satan lui suggère, écoute, tu veux réussir ta vie. Tu es un prophète, tu veux réussir ta vie. Tu n'as qu'à utiliser toute la force messianique qui est en toi. Tu fais un grand miracle et tu auras tout le monde à tes pieds. Or, le Père a voulu que son Fils vienne sur terre en faisant quelques miracles pour manifester son identité et la miséricorde de Dieu, mais pas trop. Il n'avait pas le droit de multiplier les multiplications de pain. Et c'était très tentant pour Jésus à Nazareth. Il n'a réussi à faire... Les gens de Nazareth ne croient pas en lui. Tu fais un grand miracle. Vous savez qu'il aurait pu descendre de sa croix, Jésus. Quand on est capable de multiplier les pains, de ressusciter les morts et de marcher sur la mer, descendre de sa croix, c'était un jeu d'enfant. Il faudrait méditer ça la semaine sainte. Jésus, il est resté attaché à la croix. Il pouvait en descendre. Il avait la force pour en descendre, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et avant d'être arrêté au jardin de Gethsémani, il est encore en train de lutter contre la tentation. Il dit même à son père, « J'ai pas envie d'aller au calvaire, j'ai pas envie du chemin de croix. Si mon enfant s'est décidé de toute éternité en conseil trinitaire, bon, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Jésus, il a eu un mal fou à dire que ta volonté soit faite. Vous voyez, et c'est par celui qu'il nous sauve. Et ça, c'est une autre conférence. C'est le mystère de la croix rédemptrice.
Gagner le combat spirituel, c'est donc le titre de votre ouvrage. On va faire une deuxième pause, paru aux éditions de l'Emmanuel, et puis on vous retrouve tout de suite après.
présence dans la vallée de la Garonne, 97.9.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Combat spirituel, et si on parlait vrai, c'est pour rappel, point d'interrogation, pardon, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Pour ceux qui nous rejoindraient, nous sommes avec Pierre Descouvemont, qui est prêtre, docteur en théologie, auteur de multiples ouvrages, et celui qu'on le parcourt ce matin est intitulé « Gagner le combat spirituel » paru aux éditions de l'Emmanuel, nouvelle édition augmentée. Pierre Descouvemont, vous auriez de quoi tenir une série de carême. D'ailleurs, si vous passez vos 94 ans, eh ben, peut-être qu'on pourra faire ça l'année prochaine. Je rappelle donc ce livre qui a deux grandes parties, la tactique du diable et après la riposte du chrétien. Alors dans la riposte du chrétien, je voulais m'arrêter sur une. Vous dites que c'est une arme, c'est une sacrée arme. Ce sont même des missiles à vous entendre. Donc c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez prendre quelques exemples d'extraits de la parole de Dieu qui peuvent, dans notre quotidien, venir nous aider à faire face?
Mais bien sûr, c'est dans la description de saint Paul, le glaive de la parole de Dieu. C'est-à-dire que pour résister à une tentation, il faut trouver, pour se souvenir, et le Saint-Esprit va nous aider à nous en souvenir, l'Esprit vous rappellera, c'est le souffleur, il faut nous rappeler une parole qui est véritablement la parole qui va torpiller la tentation. Non, par exemple, j'ai une nouvelle contrariété. Je ne sais plus où j'ai mis ma carte bleue. J'ai oublié quelque chose au magasin, il faut que je retourne. Toutes les difficultés de notre vie, elles vont être contrées par la grande vérité. Dieu ne permet pas que tu sois tenté au top de tes forces. Dieu fait tout concourir au bien de ceux qu'il aime. La providence, ce mystère si contesté aujourd'hui dans le peuple chrétien, c'est une hérésie qui n'a jamais existé pendant 19 siècles et demi.
Laquelle?
La providence, c'est que Dieu est tout-puissant, c'est-à-dire que Dieu ne permet pas. Toutes les études, toutes les épreuves sont permises par Dieu. Alors le mot est... Oh, j'ai fait combien de conférences et sur la providence, parce que c'est très contesté par le peuple chrétien, voyez. Les gens n'osent plus croire que tout est grâce, le mot de Thérèse. Attention, parce que je vais faire une conférence, c'est pas tout est bien, voyez. Pourquoi les saints deviennent des saints? Parce qu'ils croient tous, ils vivent le mystère de la providence.
Alors, autre exemple, Pierre Descouvemont, ta vie est banale, tu ne fais rien d'original.
La vie est banale.
Voilà la réponse.
La vie est banale. Je me rappelle cette grande vérité que je peux faire la joie de Dieu. Vous voyez, ma vie n'est pas intéressante, mais je crois que en faisant un travail tout simple, tout monotone, pas intéressant, j'intéresse Dieu. Tu feras la joie de Dieu. Oui, c'est extraordinaire, ça.
Autre exemple, ton avenir est sombre et incertain. Pardon, je l'épicore, hein, comme ça je vous laisse répondre un peu.
Non, la jalousie, tout à l'heure je l'ai dit, mais je suis bête si je pense que j'ai moins de succès que l'autre, parce que ce qui compte, ce n'est pas le succès, ce n'est pas la gloire, c'est de plaire à Dieu. Et j'ai vraiment un argument pour toutes les... Il faut trouver, le chrétien, il médite. Ta parole est vérité et ta loi délivrante. La parole de Dieu, c'est le « j'ai une raison mystérieuse », parce que la raison, c'est toujours un mystère. Les vérités chrétiennes sont des mystères. Et donc, pourquoi la religion chrétienne est merveilleuse? Parce que le Seigneur nous a révélé beaucoup de vérités mystérieuses qui vont nous permettre de triompher des tentations. Voilà.
Il y a autre chose, vous parlez du contre-espionnage, je repère la stratégie de l'adversaire.
Ben, c'est-à-dire qu'il faut repérer les slogans. Non, par exemple, je ne vais pas me confesser parce que ça va dévoiler les scrupules. Vous voyez, ne prie pas trop parce que tu vas devenir déconnecté du monde. Vous voyez, des prêtres dans tous les diocèses, il y a presque toujours un prêtre qui a la simplicité de dire qu'il n'a découvert l'oraison qu'après des années de séminaire, parce qu'il était tellement pris par ses activités apostoliques que Bon, il ne prie pas assez. Eh bien, un jour, il découvre, par exemple, devant le dépôt immortel du curé d'Ars, l'évangile qu'on lit pour la fête du curé d'Ars, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Qu'est-ce que dit Jésus ? Multipliez les activités, non ? Priez le maître de la moisson. Donc vous avez des prêtres qui ont la simplicité de dire qu'après 25 ans de sacerdoce, ils ont enfin découvert que la prière devait avoir la place importante dans leur vie parce qu'ils étaient bouffés par les activités apostoliques. Le contre-espionnage a joué. Ils n'ont pas vu qu'ils étaient victimes d'une erreur. Est-ce que vous comprenez ça, hein ? C'est ça le contre-espionnage.
Autre élément.
Il faut contrer l'espion, il faut contrer l'erreur par une vérité qu'on est allé chercher dans la Bible.
Autre élément, l'entraînement. Vous dites qu'en fait, il faudrait chacun apprendre à se battre chaque jour contre ses défauts. Vous appelez ça l'ascèse chrétienne. Expliquez-nous.
C'est-à-dire chaque jour faire un petit pas. Hein. C'est la grande idée de Saint François de Sales, par exemple. Hein. Avancer, c'est tous les jours qu'il faut. C'est la fameuse résolution qu'on reprend tous les jours. Il faut reprendre des résolutions. Et avoir l'humilité et le courage de s'y mettre encore, hein, parce que par l'orgueil, ça disparaîtra au moment de la mort. On est tous tentés par l'orgueil.
Qu'est-ce que vous entendez par l'ascèse ? En fait, ça veut dire quoi l'ascèse, si vous deviez revisiter ce mot ?
C'est le mot grec qui veut dire exercice. C'est tout simplement le fait de faire chaque jour une petite action difficile. Les anciens disaient agir contre mes tendances. Bon, ça me vient une carmélite qui me confiait gentiment un jour qu'elle avait pris comme résolution de terminer toujours ses repas par un petit bout de pain sec. Bon, oui, ça paraît ridicule, mais c'est une façon de s'entraîner un peu au combat, de lutter contre sa gourmandise spontanée. Vous voyez ? Tous les jours, on fait une BA, on fait quelque chose de difficile, on s'entraîne exactement comme le sportif, il fait son entraînement tous les jours, quoi.
Alors vous avez une règle.
Je connais un guitariste qui fait 4 heures de guitare tous les jours pour devenir un meilleur guitariste, tout simplement.
Vous avez pour ça une suggestion, c'est la règle des 3 P. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette règle des 3 P, petit, pratique et précise ?
Oui, mais c'est-à-dire mais une résolution, ça doit être quelque chose de précis, hein. Non, le papa qui prend comme résolution de s'occuper davantage de ses enfants, c'est trop vague, ça. Non, tous les jours, je passerai un petit moment avec mes enfants, sauf exception, bien sûr. Vous voyez, on prend une résolution précise pour pouvoir la tenir. Parce que si je vais prier davantage, ça n'a aucun sens. Quel est le moment où je vais prier tous les jours ? Je vais essayer de trouver un moment tous les jours pour faire oraison. C'est ça que ça veut dire.
Voilà, et de multiples autres choses à trouver dans votre ouvrage. Alors peut-être à la fin de cette émission, Pierre Descouvement, comment est-ce qu'on aborde la Semaine Sainte quand on en est à sa 93e ?
Eh bien, il faut surtout regarder le crucifix. Hein, faut quand même pas oublier, aujourd'hui, on a tellement insisté. Vous voyez, par exemple, il faut pas remplacer le crucifix par la magnifique peinture de Rembrandt sur l'enfant prodigue. J'aime beaucoup cette peinture, bien sûr, comme tout le monde. J'ai même fait un disque pour la commenter. Bon. Mais nous sommes sauvés par le sang du Christ, par le crucifix. Donc les saints privilégient le regard, dire que tu m'as aimé jusqu'à ce point-là. Je vis la Semaine Sainte. Faut quand même. Vous voyez, nos ancêtres, n'oubliez pas que le Vendredi Saint, c'est le jour où on prie un petit peu plus, quoi. Où on regarde le crucifix de son village, le calvaire de son village. On met un calvaire au carrefour de nos cités pour nous rappeler que nous avons été sauvés par ce sacrifice de Jésus et que nous pourrons nous aussi offrir des sacrifices. Voyez, c'est la grande idée que par Jésus, avec lui et en lui, on peut offrir les roses de nos sourires au milieu des épines. Aujourd'hui, il y a malheureusement des chrétiens qui ne croient plus à ce mystère. Il n'y a rien à offrir au bon Dieu, c'est gratuit, l'enfant prodigue, non, 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 non. nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Et par Jésus, avec lui, en lui, nous pouvons faire tous nos actes d'amour, et spécialement ceux que nous faisons au cœur de nos épreuves. Vous voyez ? Alors, faut retrouver, c'est très perdu, je ne sais pas. Ouais, c'est très perdu aujourd'hui. C'est nouveau d'ailleurs. Cette hérésie n'a jamais existé dans l'Église avant 1970, mon cher ami. C'est une hérésie toute nouvelle.
Eh bien, merci.
Qu'on n'ose plus croire à la fécondité de nos croix.
Eh bien, merci, merci Pierre Descouvement de nous avoir introduit donc au combat spirituel. Je rappelle le titre de votre livre, « Gagner le combat spirituel ». Vous auriez bien d'autres choses à dire, on l'a bien entendu, mais on touche à la fin de cette émission. Et puis désolé de vous avoir un petit peu coupé la parole de temps en temps, mais comme vous parlez d'abondance de cœur et qu'on ne se voit pas, c'était un peu la règle du jeu, « Gagner le combat spirituel », paru aux éditions de l'Emmanuel. Un grand merci à vous. À la technique, Christophe Aubry, vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.